Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette derrière le micro. Je suis là pour les 30 prochaines minutes avec vous pour cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. C'est aujourd'hui que débute la 12e édition du Défi Santé, une campagne qui, je vous le rappelle, invite la population à manger plus de fruits, plus de légumes, hein, 5 portions tous les jours, à bouger quotidiennement 30 minutes et à prendre des pauses. Et c'est pas pour rien que ce défi se renouvelle depuis tant d'années. Il demeure toujours aussi pertinent et il y a certains chiffres, sondages qui le confirment, à savoir que 54 % des Québécois de 12 ans et plus ne mange pas la portion de fruits et de légumes recommandée. 49 % des Québécois se disent inactifs pendant leurs loisirs et plus du quart d'entre nous estiment vivre un stress plutôt élevé au quotidien. En deuxième partie d'émission, Dr Joanne Blais, porte-parole médicale du Défi Santé, sera là pour nous donner quelques trucs pendant les jours du Défi Santé. Également vous dire que les approches ou les thérapies dites complémentaires en santé sont être de plus en plus apprécié de la population, et ce, pour diverses raisons. On les utilise aussi, pour différents cas, différents soucis de santé, et peut-être également parce qu'on y trouve une approche plus humaine, un contact plus direct que offre pas toujours la médecine conventionnelle. La médecine intégrative, c'est une approche qui est toute jeune, toute neuve, qui existe depuis à peu près les début des années 90. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant ces derniers jours. Et pourtant, c'est une pratique qui intéresse de plus en plus les milieux hospitaliers. J'en parle à l'instant avec le docteur Christian Boukaram, lui radio-oncologue et chercheur à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Christian Boukaram, bonjour.
Bonjour.
De ce que j'ai pu comprendre de la médecine intégrative, c'est que ça va au-delà du diagnostic, au-delà du cas purement scientifique. On s'intéresse tout d'abord à la personne derrière le patient.
Exactement, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui utilisent des thérapies non conventionnelles. Oui. La majorité, 80 % selon certains sondages. Et les sondages montrent que 50 % n'en parlent pas avec leur médecin traitant.
Mm-hmm.
Une des raisons pourquoi ça existe, c'est probablement parce qu'ils pensent que le milieu médical est peut-être fermé à ça, ou peut-être parce que les médecins n'en parlent pas assez parce qu'ils pensent ne pas avoir assez de connaissances là-dedans.
Et pourtant, ça a des impacts lorsqu'on suit un traitement pour soigner notre cancer.
Bien, c'est qu'il y a la majorité qui utilise ces traitements-là non conventionnels, et certains peuvent être dangereux, certains peuvent être nuisibles. Et il y a aussi des charlatans qui existent. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de ces thérapies non conventionnelles qui peuvent être utiles. Ils ont été étudiés scientifiquement et c'est ce qu'on appelle les thérapies complémentaires.
Oui. Entend par thérapie complémentaire, Dr Boukaram?
Avec la thérapie complémentaire, on entend plusieurs types de thérapies, certains types de type corps-esprit, comme la méditation, l'hypnose, le yoga, la visualisation, la musicothérapie. Il y a aussi d'autres types de thérapies plus physiques qu'on appelle comme le massage, la massothérapie. Il y en a de plus en plus maintenant qui ont été prouvés comme étant sécuritaires quand ils sont utilisés dans un cadre et par des gens expérimentés, comme quoi ils peuvent être extrêmement bénéfiques pour les patients pour améliorer leur qualité de vie, pour améliorer la dépression, l'anxiété, les douleurs, les effets secondaires des traitements comme les nausées. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'avantages à être utilisés de manière sécuritaire et c'est pour ça qu'on a commencé à les offrir à l'hôpital.
Vous êtes vous-même musicien, Dr Boukaram. Est-ce que vous avez vu les effets de la musique, de l'art sur le bien-être de vos patients?
Ah, bien sûr, bien sûr. On a commencé plusieurs ateliers d'art en relation avec la musique. Il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art qui sont dans les salles d'attente. Et les gens oublient qu'ils sont malades pendant cet instant. lorsqu'ils écoutent la musique ou lorsqu'ils parlent de l'art ou ils discutent d'autres choses que de leur maladie. Et en même temps, la musique fait en sorte que plusieurs patients se rassemblent ensemble. Ils peuvent sortir de l'isolation qu'ils peuvent ressentir parfois.
Je le disais tout à l'heure, c'est tout jeune, cette approche-là, qui est la médecine intégrative. Comment ça s'est créé, ce mouvement?
Ça s'est créé dans les années 90 par Dr. Eisenberg puis Dr. Whale. Puis lentement, ça a commencé à se développer. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé qu'au Québec. Mm-hmm. Ça a commencé dans l'est, en fait, dans l'ouest de des États-Unis, mais surtout en Arizona. Et là, lentement, ça a commencé à se répandre un peu partout parce que ce qu'on a montré, c'est que, un, ça servait aux patients, mais il y a aussi un grand service pour le système de santé parce que beaucoup de ces outils-là, lorsqu'ils sont utilisés de manière rigoureuse, ils peuvent faire économiser de l'argent au système de santé en plus. Mm-hmm. Parce qu'on utilise des thérapies qui coûtent moins cher, on agit sur la prévention et aussi on prévient les visites à l'urgence, on diminue le taux d'hospitalisation.
Oui, c'est une façon, j'imagine, de rendre le patient responsable, aussi de prendre sa maladie en main, d'apprendre à la connaître, de l'apprivoiser.
Oui, les patients, déjà maintenant, veulent être des partenaires dans leurs soins de santé. Mm-hmm. Ils veulent se sentir, en anglais, on appelle ça « empowerment ». Mm-hmm. Ils veulent renouer avec, ils veulent être actifs dans le processus de guérison. Et donc, ils vont sur Internet, il y a beaucoup d'informations qui sont parfois vraies, parfois fausses, mais ils ont accès à beaucoup d'informations. Et donc, il y en a beaucoup qui essaient d'autres produits. Et c'est important qu'on puisse en parler avec eux dans un cadre hospitalier, qu'ils puissent nous parler de tout ce qu'ils utilisent. Comme ça, nous, on peut le documenter, on peut aussi leur dire qu'est-ce qui a déjà été étudié de manière sécuritaire.
Ça change votre rapport aussi avec le patient parce que soudainement, il y a cette notion de confiance qui devient assez forte. En quoi l'approche patient-soignant est modifiée?
C'est qu'à la base, il y a une alliance qui se crée entre le médecin et le patient. Et cette alliance-là, ce sentiment de sécurité, de confiance que le patient a à son médecin est primordial. Parce que ça joue sur plusieurs éléments. De un, le patient va se confier plus, va parler plus, va communiquer plus. Et de deux, ça augmente aussi l'adhérence au traitement. Les patients ont tendance à plus finir ou compléter leur traitement, selon certaines études aussi. Donc, c'est important qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent aussi respectés dans leurs croyances, les patients. Surtout quand c'est maintenant documenté que plusieurs de ces thérapies-là complémentaires sont sécuritaires.
Oui. Et ce qui est important à saisir, je crois, je tiens à le rappeler, c'est qu'on ne réfute pas la médecine dite plus conventionnelle. Il y a quand même des traitements plus réguliers que l'on connaît déjà en milieu hospitalier, mais c'est joint
Absolument.
Avec d'autres méthodes.
Oui. Ça remplace rien, ces méthodes-là, en fait. On donne toujours... T'sais, pour guérir un cancer, là, ça prend de la radiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie. Ces thérapies-là complémentaires ne guérissent pas la maladie. Ils soignent la personne. Oui. Et ils améliorent les paramètres psychologiques ou sociaux de l'individu, même biologiques parfois, mais ils vont pas guérir un cancer. On parle pas de les utiliser en alternative avec les traitements conventionnels. On parle de les jumeler ceux qui sont sécuritaires avec les traitements conventionnels.
Mm-hmm. Est-ce que la médecine intégrative s'adresse à tout le monde? Est-ce que n'importe quel patient pourrait suivre une médecine plus intégrative?
Les patients, oui, c'est sûr que n'importe quel patient, s'il le désire, mais c'est sûr que pour l'instant, c'est pas encore très développé.
Non, c'est ça.
Mais là, on a commencé l'enseignement à l'université, dans plusieurs universités, dont l'Université de Montréal. Moi, j'ai commencé à l'enseigner aussi depuis 2 ans, résident en oncologie. Ça commence à se développer. Mais c'est sûr que, déjà à la base, qu'il y ait une communication limpide et claire entre un médecin et un patient sur les thérapies non complémentaires, non conventionnelles, excusez-moi, oui. Et qu'un médecin aborde l'être comme une entité entière, au fait comme une entité psychologique, biologique, sociale, qu'on garde toutes les facettes de la santé, c'est déjà un pas vers une approche intégrative.
Ouais. Est-ce que ça s'adresse également à une équipe multidisciplinaire? Il y a vous, médecin radio-oncologue, mais est-ce que ça sollicite les autres membres de l'équipe médicale?
C'est sûr que tout doit se faire d'une manière multidisciplinaire et vraiment, plus on avance dans notre méthode de donner des soins, plus la notion de multidisciplinarité commence à être importante. Puis le hic, c'est que maintenant, il y a déjà une équipe multidisciplinaire à l'hôpital formée de plusieurs thérapeutes, dont des psychologues. Mais en même temps, il y a beaucoup de ces thérapies non conventionnelles qui sont données à l'extérieur de l'hôpital et qui ne sont pas données dans un cadre où les gens discutent entre eux. Donc, ce n'est pas donné dans une équipe. Donc, c'est ça le but d'amener ces thérapies-là aussi à l'hôpital. C'est que de cette manière-là, la communication va se faire encore mieux avec les autres, le reste du personnel de la santé.
Oui. Docteur Boukaram, vous êtes également l'auteur de ce livre « Le pouvoir anti-cancer des émotions ». C'est quoi l'impact de l'émotion, de nos émotions sur la gestion de notre santé?
La santé est un équilibre entre les sphères biologiques, psychologiques et sociales. Ça, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça la définition de la santé. Donc, c'est clair que quand on veut prendre soin de notre santé ou d'un individu, il ne faut pas juste regarder les sphères biologiques ou juste la tumeur cancéreuse, mais aussi voir la personne, le côté psychologique et social, les soigner en totalité, dans une entièreté. Et une des raisons, c'est sûr que le stress peut être parfois bénéfique et peut être parfois néfaste, selon s'il est d'une courte durée ou d'une longue durée. Mais les stress chroniques d'une longue durée, la détresse, ça, après quelques années de détresse, c'est très nuisible pour le système en général. Et donc, ça peut amener à plusieurs maladies chroniques et ça peut amener aussi à une détérioration des sphères physiques. Il y a un lien entre, mais c'est pas un lien immense, là. C'est pas un lien important entre le corps et l'esprit, mais il y a quand même un lien entre le corps et l'esprit. Donc, il faut quand même regarder les autres sphères de l'individu, pas juste la sphère biologique.
Qu'est-ce que vous répondez à vos patients qui se disent coupables de leur maladie? Parce que ça revient souvent lorsqu'on souffre d'un cancer de se dire « Ah, c'est de ma faute, j'ai vécu trop de stress », bon, par exemple. Comment on peut changer ce discours intérieur-là?
Bien, je pense que c'est peut-être la croyance qu'ils ont que le stress a causé leur cancer, mais c'est faux. Le stress ne cause pas le cancer. Puis le stress... Il y a des gens qui peuvent vivre stressés toute une vie et ne pas nécessairement être malades, alors que d'autres peuvent être stressés toute une vie et avoir des maladies cardiaques, l'autre qui peuvent avoir de l'asthme, de l'obésité, du diabète. Le stress chronique est maintenant relié à toutes les maladies chroniques. Et donc, ce n'est pas une question de regarder ça d'une manière très simpliste et réduite, de dire, ben ça, c'est le stress qui a causé mon cancer. Ce n'est pas du tout ça. Le cancer, c'est une maladie multifactorielle. Ça prend une panoplie d'éléments, puis il y a aussi de la génétique qui joue là-dedans. Il y a toute une question du style de vie, de l'environnement, de l'alimentation. Il ne faut pas réduire ça uniquement à ça.
Oui.
Donc, mais en même temps, même si le stress ne cause pas le cancer, ça ne veut pas dire que s'il y a de la détresse chez les gens qui sont soignés pour un cancer, qu'il ne faut pas regarder ça. Il faut quand même soigner les gens en détresse. Parce que la détresse chronique, par contre, les gens qui sont en détresse pendant plusieurs années, ça, c'est néfaste. Ça peut faire aggraver beaucoup de paramètres, ça peut détériorer la santé.
Vous êtes également derrière le fonds Croire. Quels sont les objectifs menés ou souhaités par ces fonds?
Le fonds Croire est un organisme qui a été créé par moi et mes collègues en radio-oncologie. Et le but, c'est d'amener un soutien, d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer en leur amenant des traitements complémentaires ou en des ateliers. On en offre des ateliers comme la méditation. Il y a des ateliers de rire. Et le but, c'est vraiment d'améliorer leur qualité de vie.
Ouais.
Et on fait ça depuis quelques années maintenant. Et les activités sont en croissance, mais c'est sûr que, bon, on fait ça bénévolement. Et donc, on compte beaucoup sur l'aide des gens, et soit de dons ou d'aide avec le temps, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à vouloir être bénévoles.
On peut aller visiter. Est-ce que le font croire un site, Dr Boukaram?
Au fait, ça fait partie de la Fondation Maisonneuve Rosemont.
Ah, voilà. Alors, on dirigera nos auditeurs vers les Fonds Croire, également vers votre site Dr Boukaram pour drboukaram.com. En terminant, est-ce qu'on pourrait espérer au Québec que d'autres hôpitaux que Maisonneuve Rosemont adoptent la médecine intégrative et l'intègrent à ses soins hospitaliers?
Moi, je pense que c'est inévitable. Si on regarde comment aux États-Unis, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur et ça prend de l'expansion et que les études montrent que c'est bénéfique, autant pour le système que pour les patients, je trouve que c'est inévitable que ça va grandir de plus en plus. C'est vraiment appelé à croître.
Oui, parce que vous entendre, il n'y a pas beaucoup de désavantages à cette approche.
En autant que ce soit fait dans un cadre de manière rigoureuse et qu'on puisse justement faire ça avec des études scientifiques, à ce moment-là, bien, c'est sûr que si c'est pas fait comme ça, ça peut comporter d'autres dangers, parce qu'il faut vraiment faire ça de manière rigoureuse, là.
Ouais. Docteur Christian Boukaram, vous êtes radio-oncologue et chercheur à l'hôpital Maisonneuve Rosemont. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir. Ouais.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur Joanne Blais, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes porte-parole médicale pour le défi santé 2016, un défi qui est là au cœur de la population québécoise depuis maintenant 12 ans et qui semble plus pertinent que jamais parce que, encore, d'après les études, d'après les sondages, les Québécois n'atteignent pas encore les recommandations en lien avec les saines habitudes de vie. Comment on peut expliquer ça?
Mais je pense que, vous savez, changer un comportement, c'est pas facile, même si on y croit beaucoup. Il y a multiples raisons pour lesquelles les Québécois ont de la difficulté à atteindre les objectifs que le défi santé vise. Parce que, bon, évidemment, il y a toujours de bonnes raisons. On dit qu'on n'a pas le temps, on dit qu'on n'a pas nécessairement les sous, ou encore qu'on est trop stressé puis qu'on veut pas ou on n'aime carrément pas ça. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font que les Québécois ont un petit peu de difficulté à atteindre ces objectifs-là, mais je vous dirais que depuis que le défi santé existe, on a quand même eu plus de 1,2 million d'inscriptions. Wow. C'est que c'est quand même, on sent un intérêt, puis on n'a jamais autant entendu parler d'alimentation et d'activité physique que dans les 3-4 dernières années.
Oui, et en même temps, on n'a jamais autant entendu parler de prévention. Ça semble de plus en plus être, je dirais, un message, pas nécessairement à la mode, mais au cœur des préoccupations. Avant, c'était pas aussi présent. J'imagine que les médecins, vos collègues, vous voyez ça d'un très bon œil.
Absolument. Moi, c'est un rêve que je caresse depuis 25 ans, d'être capable de travailler plus en prévention et non nécessairement du côté de la guérison, en ce sens que si on évite, si on permet aux gens d'être plus en forme, ben ces gens-là vont développer des maladies chroniques beaucoup plus tard. Donc, c'est sûr que pour nous, on trouve ça vraiment fantastique de pouvoir, en tout cas, tenter de s'impliquer de plus en plus en prévention.
Les objectifs du défi santé semblent quand même assez raisonnable. Évidemment, lorsque l'on a à les faire de façon concrète, ça peut devenir un réel défi. Justement, on parle de manger des fruits et légumes quotidiennement. Il y a l'activité physique aussi. La portion équilibre, pourquoi on a voulu ajouter ce volet-là?
Parce que on n'a jamais eu une population aussi, qui se dit du moins aussi stressée. On voit le niveau de stress un peu partout dans au niveau de toute la population, que ce soit les gens plus à l'aise, les gens plus pauvres, les professionnels, bref, moi dans mon bureau, j'arrête pas d'avoir des gens qui sont excessivement fatigués, excessivement stressés. Mm-hmm. Et lorsqu'on a ajouté ça au défi santé, c'est qu'on se disait, c'est difficile de passer à côté de l'équilibre de vie. Puis pour l'équilibre de vie, ben oui, il faut avoir une bonne alimentation, bouger régulièrement, mais il faut aussi être capable d'avoir un équilibre pour soi. Et ça, c'est difficile de penser à soi dans la société dans laquelle on vit actuellement. Donc, c'est d'être capable de se dire, par exemple, comme mère, bon, bien, je prends ma petite pause de 15 minutes, j'ai besoin de ça. Ou comme travailleur, de dire, en avant-midi, je m'accorde deux fois trois minutes pour ne serait-ce que juste me concentrer sur ma respiration. C'est pas très compliqué d'essayer juste d'inclure un 5-10 minutes où on juste apprendre à respirer, là, c'est déjà une tâche monumentale.
Oui, ou réapprendre, hein, parce que c'est assez inné au début de la vie, mais on semble laisser...
On le fait.
Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, comment intégrer, parce que bon, je le disais, ça peut paraître simple, mais évidemment, ça ne l'est pas toujours. Comment on peut se donner des petits trucs pour mieux manger et bouger davantage?
Bien, la première chose, vous allez rire quand même, mais la première chose, c'est de vous inscrire au défi santé, parce que c'est déjà un très bon départ. Et aussi parce que c'est sûr que j'ai très à cœur ce défi-là, parce que ça fait plusieurs années que j'y suis impliquée. Et c'est que c'est 6 semaines où on est capable justement de se donner comme mandat de dire, bon, bien, je vais aller voir mon dossier en ligne, parce que quand on participe au défi, on a accès à notre dossier, on peut avoir un suivi quotidien de nos objectifs. On a des vidéos d'exercice, des menus santé, des pauses équilibre, on a des quiz, donc puis on reçoit des courriels de motivation. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir commencer à changer un comportement en utilisant le défi santé. Et pour les gens, lorsqu'on parle d'alimentation, et on le sait, vous comme moi, que c'est de plus en plus cher, que l'on parle de fruits et légumes, que l'on parle de poissons, mais on se rend compte que au niveau de l'offre alimentaire, si on y va avec des légumes de saison, des légumes locaux, et qu'on utilise aussi les surgelés qui demeurent très bons en période hivernale, bien, on peut en arriver à ce que ça coûte moins cher. Puis la même chose pour l'activité physique. Moi, je dis à mes patients, écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans un centre de conditionnement physique. Mm-hmm. Vous pouvez très bien faire des exercices à la maison sans appareil. Et puis pour l'équilibre, bien, les gens vont me dire, oui, mais j'ai pas d'argent pour aller dans un spa ou faire du yoga. Bien, il y a plein de trucs simples qui sont donnés sur le site web du défi pour dire, prenez juste un peu de temps pour essayer de vous dire comment je me sens avant midi. Est-ce que je me sens stressée? Si oui, c'est peut-être le temps que je me concentre sur ma respiration, ou que la méditation n'a jamais été aussi populaire que maintenant, et j'en suis très contente, parce que je me dis, ça va permettre aux gens d'avoir du temps.
Une des bonnes façons de se motiver, ça pourrait être de s'inscrire en famille.
Absolument, parce que l'avantage du défi santé, c'est qu'on peut s'inscrire seul, on peut s'inscrire en équipe, on peut s'inscrire en famille, on a même des municipalités qui s'inscrivent. Donc, bien sûr qu'on peut s'inscrire en famille, et moi, je considère que plus les parents donnent l'exemple à leurs enfants, plus les enfants vont être actifs. Mais parfois, c'est l'inverse. Les enfants sont actifs et amènent les parents à être actifs. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est une belle occasion en famille pour se donner un défi, tout le monde ensemble.
Donc, tout le monde peut participer au défi santé 2016.
Absolument.
Oui. Maintenant, est-ce que le défi santé, Dr Joanne Blais, tente de contrer certaines maladies chroniques bien précises?
Absolument. Vous savez que, on a de plus en plus d'études qui le confirment, c'est que il y a 7 décès sur 10 au niveau des maladies chroniques qui n'arriveraient pas si on avait de bonnes habitudes de vie.
Ah oui.
Alors, juste pour vous mentionner qu'il y a une relation tellement directe entre les saines habitudes de vie et la prévention des maladies chroniques qu'on s'aperçoit, par exemple, que les gens qui sont diabétiques ont réussi à vraiment diminuer leur glycémie lorsqu'ils font de l'activité physique régulièrement. Mm-hmm. Donc, le diabète, c'est une des maladies chroniques les plus fréquentes. Je vous dirais qu'il y a plus de 830 000 Québécois qui sont atteints de diabète. Donc, c'est plus de 10 % de la population. Et dans 9 cas sur 10, c'est lié aux habitudes de vie.
Hey.
Mm-hmm. Fait que c'est énorme. C'est la même chose pour les maladies cardiovasculaires. C'est la même chose pour l'obésité. Donc, on a au niveau du cancer aussi, on a de plus en plus d'études qui démontrent que plus on a de bonnes habitudes de vie, plus on diminue le risque, par exemple, de cancer du côlon, de cancer du sein. Donc, c'est des cancers qui sont très fréquents. Donc, je pense qu'on n'arrêtera jamais de mentionner l'importance des habitudes de vie.
Mais bientôt, vous pourrez le prescrire en cabinet?
Absolument. Ben, on a déjà commencé avec le défi Pierre Lavoie.
Oui, voilà.
On a déjà commencé et on était quand même plusieurs, puis je ne suis pas du tout la seule dans ce cas-là, à déjà avoir, depuis plusieurs années, faire des prescriptions d'activité physique aux patients. Mais la beauté de la chose, c'est que de plus en plus, on va pouvoir avoir la chance de travailler avec des kinésiologues et des nutritionnistes qui vont faire qu'en équipe, on a beaucoup plus de chances d'en arriver à aider les patients à changer de comportement.
Maintenant, on peut s'inscrire à partir d'aujourd'hui.
Oui.
Vous avez encore 29 jours. Donc, suffisamment de temps. On va à portail.capsana.ca, c'est bien ça, docteur?
Oui, et où vous pouvez simplement mettre défisanté.ca et vous allez arriver directement sur le site pour vous inscrire.
Vous êtes porte-parole médicale du Défi Santé 2016. Docteur Joanne Blais, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Bon défi.
Merci, au revoir.
Au revoir. Eh bien, Jean-Sébastien Laliberté était bien assis sur sa chaise à respirer au bon conseil du Dr Blais. Je vous invite à participer à ce défi santé 2016, portail.capsana.ca pour le rappel. Peut-être qu'on se lancera une petite équipe ici, Jean-Sébastien, pour participer au défi fruits, légumes, bouger de façon quotidienne et bien sûr, respirer par le nez. Demain, je rencontre Anne-Laure Marcadel, conseillère au développement des ressources à l'Appui Montréal. On parlera de reconnaître les besoins des proches aidants et ça, c'est à la veille, là, quelques jours précédant une conférence qu'elle offrira à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Également, interdire la publicité d'aliments et de boissons auprès des enfants et ce, partout au Canada. C'est le souhait de Corinne Voyer, elle, directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Elle sera là également demain en deuxième partie d'émission, Corinne Voyer, pour nous en parler davantage. Merci d'avoir été des nôtres, puis on vous invite toujours à entrer en communication avec nous, que ce soit par courriel mpaquette@vuesetvoix.com ou encore par téléphone. C'est le 1-800-361-0635, le poste 220. On se retrouve demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.